Bonjour à tous. Bon, Kevin. Si on devait faire un petit sondage dans le quartier, qu'est-ce que c'est pour vous le bonheur absolu? Imaginons qu'on interroge là et là. Qu'est-ce qu'ils nous disent à votre avis?
Rentrer chez soi,
effectivement, après 3 semaines de... Après même 7 semaines de vadrouille, effectivement, rentrer chez soi, on est d'accord, Kevin?
La santé,
effectivement. Les vacances, effectivement, on est, les loisirs, effectivement, on est dans le fin août, donc effectivement, pour la plupart, bonheur égale probablement être chez soi en bonne santé.
Les enfants en colonie de vacances.
Les enfants loin. Le bien-être, un peu de yoga chaque matin, et avec ça, le bonheur assuré. Par contre, la probabilité que quelqu'un nous dise, qui dise quelque chose autour de la religion, comme ils disent, autour de la Bible, ou autour de Dieu, de Jésus, la probabilité que quelqu'un nous dise ça est assez faible. Pourtant, si on lit le premier verset du psaume 1, le tout premier verset de psaume 1, on lit cette phrase qui dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir, qui trouve son bonheur dans la loi de l'Éternel. » Alors là, on se dit qu'il y a un souci. Comment c'est possible qu'un homme en arrive à écrire cela? Comment c'est possible que le bonheur soit en Dieu et pas en colonie de vacances ou au bord d'une piscine dans le Luberon? Comment c'est possible? Alors on va essayer de comprendre pourquoi. Alors vous vous doutez que j'ai rien contre les piscines dans le Luberon et dans les Alpes, pour nos amis du 13, mais comment c'est possible? Et ce matin, on va regarder le psaume 1 ensemble, et on va regarder la source du bonheur, la nature du bonheur et l'assurance du bonheur. La source, la nature et l'assurance. Et on va voir que, effectivement, heureux l'homme juste, mais surtout, heureux l'homme et la femme que Dieu justifie. On va regarder ça ensemble, mais pour commencer, donc on va lire ce court psaume, le tout premier psaume, psaume 1, et je lis dans la version second 21. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau, il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à de la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Ce psaume est un psaume dit de sagesse, c'est-à-dire qu'il explique comment devrait être la vie, il explique des grands principes de la vie, et là il nous parle quand même de deux manières très différentes, deux manières très opposées de conduire sa vie et de vivre sa vie. Aujourd'hui dans la société, on est habitué où il y a vraiment aucun mauvais choix, tout se vaut. Alors ce psaume, il est très noir et blanc, hein. Vraiment il y a deux... Alors ça peut nous déranger un peu, on est habitué à plus des discours un peu plus consensuels, j'ai envie de dire. Alors on va essayer de comprendre pourquoi, et on va regarder la première clé que le psalmiste nous donne pour le bonheur. Est-ce que vous l'avez vu? C'est quelque chose à ne pas faire. Pour avoir le bonheur, la première chose commence à ne pas faire quelque chose. Ne pas suivre le conseil des méchants, s'arrêter sur la voie des pécheurs et s'asseoir en compagnie des moqueurs. Pour être en bonne santé, qu'est-ce qu'il vous faut faire, les amis? Il vous faut
manger
5 fruits et légumes, faire un peu de sport, se coucher tôt. Donc il y a plein de choses à faire. Mais si en parallèle vous buvez 5 litres de Coca-Cola ou d'Orangina par jour, alors malgré tout ce que vous faites de bien, si vous buvez 5 litres de Coca par jour, votre santé va être à zéro. Et de toute manière, le bonheur va dépendre de ce que l'on fait, mais également de ce que l'on refuse de faire, de ce qu'on choisit de ne pas faire. Et en l'occurrence, ici, dans le cas du psaume 1, de ne pas se laisser s'influencer par les moqueurs et les méchants. Et là, on pose une question, quelles sont les personnes justement qui vous influencent? Est-ce que c'est des méchants ou c'est des moqueurs? Quelles sont les personnes qui vous influencent? À quelle page YouTube êtes-vous abonné? À quel compte Facebook? Ça c'est pour Daniel. Donc on s'est très à l'aise avec les outils numériques. Daniel, à quelle page Facebook es-tu abonné?
Je n'ai pas abonné.
Voilà. Mais au-delà de l'univers numérique, dans la vie quotidienne, à la sortie de l'école par exemple, avec quelle autre maman, à quel type de discussion vous avez à ce moment-là? Et en fait, tôt ou tard, ces discussions-là, ces pages ou ces chaînes YouTube, tôt ou tard, vous influenceront en bien ou en mal. Et un arbre, s'il a ses racines dans un sol qui est pollué, tôt ou tard, alors ça va pas se faire en 10 minutes, hein, mais tôt ou tard, il finira par être malade. Alors, raison de plus pour être vigilant à ces petits choix du quotidien, que ce soit à la sortie de l'école ou alors devant YouTube, ces petits choix du quotidien qui progressivement, en fait, vont définir ce que l'on est, ce que l'on fait et quel est notre bonheur. Et voilà pourquoi le psalmiste dit « Heureux l'homme qui arrive à s'abstenir de cela ». Soyons vigilants à ces petits choix qui peuvent soit nous tirer vers le bas, soit au contraire nous tirer vers le haut. Et le psalmiste nous donne alors un petit choix à faire qui nous tire vers le haut, c'est la méditation de la loi de l'Éternel, la méditation de la parole de Dieu, verset 2. Qu'est-ce que c'est la méditation? La méditation, c'est la mode actuellement. Sur votre smartphone, vous tapez application méditation, j'en suis sûr, vous allez trouver des dizaines d'applications pour vous aider à méditer. Alors méditer sur quoi? J'en sais rien, mais ça va être méditer sur penser à soi, faire le vide, s'écouter, faire le silence en soi-même. Ici, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de méditer la parole de Dieu. Pas méditer pour méditer, c'est méditer la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors évidemment, ça commence par connaître et lire la parole de Dieu. Si on ne connaît pas quelque chose, ça va être dur de le méditer. On est d'accord? Au minimum, connaître la parole de Dieu. Et la question, voilà, c'est cet été, pendant les vacances, quelle a été votre lecture biblique personnelle? Où est-ce que vous en avez été? Ça a été un temps fort ou un temps un peu compliqué? Est-ce que vous avez peut-être que vous en êtes soit dans Psaume ou dans Proverbe ou dans Matthieu avec ce plan de lecture qu'on distribue justement pour aider. Et si c'est un peu trop ambitieux, on a aussi les Bibles en 90 minutes qui permettent, c'est super intéressant, en 90 minutes d'avoir un bel aperçu. Et si tous les mois on vous donne ces plans de lecture et on vous propose ces Bibles, c'est parce qu'en fait cette lecture, que ce soit au titre individuel ou alors collectif, comme maintenant, en fait c'est la clé de la connaissance de Dieu. Et donc au final, la clé de notre fidélité, de notre marche chrétienne, de notre piété, de notre témoignage, et même de notre bonheur, nous dit le psalmiste. C'est pas pour le plaisir d'imprimer des petits bouts de papier, hein. C'est vraiment que là se trouve la clé de notre bonheur. Et je voudrais vous lancer un petit défi. Je voudrais vous lancer un petit défi pour la rentrée. Un petit défi que j'ai. Ça fait une semaine que je le fais et je voudrais vous inviter à me rejoindre. Quelle est la première chose que vous faites le matin au réveil?
Éteindre le réveil.
Tout de suite, effectivement, avant que ça réveille toute la maison. Éteindre le réveil. Trop souvent, la première chose que l'on fait le matin au réveil, ça peut être mettre son code PIN sur son téléphone. Allumer son téléphone portable. Allumer son smartphone. Et si, pour aller vérifier, et moi le problème, c'est mon piège. Et si vous décidiez de n'allumer votre téléphone qu'après avoir lu votre Bible? Et si vous décidiez d'allumer votre téléphone qu'après avoir lu votre Bible? Ou alors prier? Ou alors passer un temps dans la prière? Je pense qu'à ce moment-là, parce que bizarrement, des fois lire la Bible, on oublie, par contre, allumer son téléphone, on n'oublie jamais. S'habiller, on n'oublie jamais. Par contre, lire la Bible, des fois, on oublie. Voilà le petit défi que je veux vous lancer. Ça fait une semaine que je m'y tiens. Je vous invite à la même chose pour la rentrée. Lire la parole de Dieu, y trouver son plaisir, mais comment la méditer? Qu'est-ce que ça veut dire méditer quelque chose? Imagine, Louis, qu'à ton réveil, tu apprennes que tu vas gagner un gros chèque ou un chèque de 100 ou un billet de 100 euros. Vous, imaginez que le matin, à votre réveil, vous appreniez que vous allez toucher dans la journée ou prochainement un sacré chèque. Qu'est-ce que vous allez faire toute la journée? Y penser, hein? Ça, on sait le faire, hein? Vous allez être en train de cuisiner, vous allez y penser, vous allez être au travail, vous allez y penser, vous allez être sous votre douche, vous allez y penser. On sait très bien faire, hein? Et la semaine de Noël, oui, lui?
Être au travail, c'est pas sûr si c'est un sacré.
Si c'est un sacré. Ouais, mais avant d'encaisser, avant de démissionner, il faut, voilà. Mais la semaine, pareil, la semaine avant Noël, les enfants, ils pensent qu'au cadeau, et ils sont bien capables toute la journée de méditer, d'être obnubilés par la perspective à venir. Peu importe qu'ils soient à l'école, en vacances ou au ski, ils pensent au cadeau de Noël. Et on peut faire l'inverse. Quand vous recevez une mauvaise nouvelle, un bilan sanguin qui est mauvais, une facture à payer qui est plus élevée que prévu, pareil, toute la journée, on y pense à la facture, hein. On sait le faire. Alors, si on arrive à le faire pour les bonnes ou les mauvaises choses, pourquoi on serait pas capable de la même manière de méditer, de penser toute la journée aux promesses de Dieu, à sa fidélité, au fait qu'il est merveilleux, à ce qu'il a fait en Jésus-Christ? On arrive très bien à le faire pour des factures, pourquoi on n'arriverait pas à le faire pour les promesses de Dieu? Et dans la Bible, il y a largement de quoi méditer toute la journée. Il y a largement assez, ne vous inquiétez pas. Et tôt ou tard, ça aura un impact, une influence sur votre vie. Sur votre vie, sur votre travail, sur votre couple, sur vos épreuves, sur votre sexualité, sur votre argent, sur vos biens, sur vos priorités. Tôt ou tard, ça aura un impact. Et cela vous mènera vers le bonheur, nous dit ce psaume. Et c'est notre seconde partie. Maintenant qu'on a vu la source du bonheur, où trouver la source, à quoi ressemble alors une vie avec la bonne source? À quoi ressemble ce fameux bonheur? Oui, à quoi tu vois que quelqu'un est heureux? Il sourit. Quelqu'un qui est heureux, il sourit. Est-ce qu'on voit quelqu'un qui est heureux parce qu'il sourit, parce qu'il a une belle voiture, parce qu'il a un iPhone dernière génération, parce qu'il a le teint bronzé, parce qu'il a... À quoi on voit que quelqu'un est heureux? Il ressemble à un arbre planté, verset 3. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison. Son feuillage ne flétrit pas et tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà à quoi ressemble une femme heureuse, un homme heureuse. Et quelle belle image de l'arbre. Alors, j'ai choisi ce psaume 1 avant, en prévision de, pendant qu'on est encore dans la chair avec la famille d'eau, sous cet arbre magnifique. Regardez, c'est un arbre immense, un feuillage vert, une ombre bienfaisante pour les autres. Voilà à quoi ressemble l'homme et la femme heureuse. On retrouve cette même image dans Jérémie 17, dans la Bible. Un arbre qui ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur, qui ne redoute rien et qui ne cesse de porter du fruit. Voilà à quoi ressemble. Et cette image est d'autant plus parlante que le psalmiste, il s'adresse à qui? Il s'adresse pas à des Gallois, il s'adresse pas à des Suisses chez qui il pleut et il y a la végétation abondante, là, un arbre vert, ça n'a rien d'extraordinaire. Non, il s'adresse à des Israélites, à des Malgaches, à des Algériens, à des Cavaillonnais chez qui le climat est rude et chez qui les arbres verts sont rares. Et donc l'image, imaginez-vous, était israélite, elle parle comme image. Dans les Alpes, dans le Vaucluse, ça nous parle comme image. Pays de Galles, un peu moins. À quoi ressemble? Et pourquoi cet arbre, il est si beau? Est-ce qu'il a quelque chose de magique? Non, il n'a rien de magique, si ce n'est que sous terre, il a des racines plongées directement dans la nappe et dans l'eau du canal. Voilà pourquoi cet arbre est beau. pas parce qu'il est meilleur que les autres, mais qu'il a les racines au bon endroit. Et de la même manière, l'homme ou la femme de Dieu qui plonge ses racines, qui se laisse influencer par la parole de Dieu jour après jour, finira, tôt ou tard, par ressembler par cet arbre. Mais j'ai quand même une petite question pour vous, une petite réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire que tout ce qu'il fait lui réussit? L'homme, il ressemble à un arbre, il a des fruits, et puis tout ce qu'il fait lui réussit. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est votre expérience que tout ce que vous avez fait a réussi? Qu'est-ce que ça veut dire? Si demain, je décide de me lancer dans un business de matériel de location de ski à Cavaillon, est-ce que je peux utiliser ce psaume 1 pour m'assurer de ma réussite? À côté de l'office du tourisme, c'est une petite boutique là où je pourrais louer du matériel de ski. Psaume 1, tout ce qu'il fait lui réussit. À ce moment-là, il est bon de se rappeler ce pourquoi l'homme a été créé, ce pourquoi la femme a été créée, et pour quel type de fruits on a été créé pour porter. Ma phrase est compliquée. Pour porter du fruit de l'esprit, pour porter du fruit pour Dieu, pour annoncer son royaume, pour être salé de lumière, pour participer à l'œuvre de Dieu. Voilà ce pourquoi on a été créé. Et je crois que celui qui se laisse influencer par la parole de Dieu, tôt ou tard, finira par porter ce type de fruit, peu importe les circonstances, peu importe que ce soit la canicule ou je ne sais quoi. Et donc, nous n'utilisons pas évidemment ces promesses de ce psaume, de ce genre de psaume, pour faire notre propre volonté en disant « c'est bon, la Bible m'assure de ma réussite ». Mais au contraire, utilisons la promesse de ce psaume pour nous transformer et pour que tôt ou tard, nous puissions porter du fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et Tom, la maîtrise de soi. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, des exemples dans vos vies. Concrètement, méditez la parole de Dieu et cessez par exemple d'être amer envers votre voisin. Voilà une belle manière de porter du fruit. Méditez la parole de Dieu et par exemple, apprenez à pardonner à votre conjoint ou à un parent. Méditez la parole de Dieu et allez donner un coup de main à tel ami. Méditez la parole de Dieu et sachez dire stop à telle ou telle tentation ou tel problème. Méditez la parole de Dieu et allez parler de votre foi à votre collègue. Méditez la parole de Dieu et portez du fruit pour Dieu en toute saison. Et en cela, là se trouve notre véritable bonheur parce que c'est pour ça qu'on a été créé. C'est pour ça qu'on a été fait par Dieu et racheté. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Faisons confiance à Dieu, que notre bonheur se trouve en cela. C'était notre seconde partie. Par contre, êtes-vous d'accord pour dire que tout paraît un peu trop simple dans ce psaume? Il suffit de méditer la parole de Dieu, de porter du fruit, et hop, le bonheur. Facile. Facile ce psaume. Et ce psaume, en fait, c'est un psaume de sagesse qui nous dit ce qui devrait être, qui explique les principes de la vie. Un peu comme certains proverbes. Celui qui est honnête réussira dans ses affaires. Est-ce que vous avez toujours réussi dans vos affaires malgré votre honnêteté? Non, mais c'est un principe de vie. Tout paraît facile. Et on peut constater que notre expérience parfois est un peu plus compliquée que ce psaume 1. Que parfois, méditer la parole de Dieu, ça porte pas forcément du fruit, ça peut nous paraître un peu fade. C'est parfois notre expérience mal promue. Parfois ce sont les circonstances extérieures qui nous déprime Des fois, c'est notre état intérieur, notre incapacité à vivre parfaitement ce psaume 1 qui nous décourage. Alors, je vous rassure, hein, vous le savez très bien, il y a d'autres psaumes qui, où les auteurs s'interrogent devant la complexité de la vie. D'autres psaumes où les auteurs s'interrogent devant la réussite des méchants. Alors, qui a raison? C'est le psaume 1? Ou c'est le psaume 73 sur la réussite des méchants? C'est le psaume 1? Ou c'est le psaume 22 sur les souffrances? Qui a raison? Est-ce que c'est le psaume 1? Ou c'est le psaume 88 sur la lamentation dans le malheur? Comment est-ce possible d'avoir ces mêmes psaumes côte à côte? Qui a raison? La fin du psaume 1 nous donne quelques éléments de réponse. Avec les versets 5 et 6, c'est notre dernière partie, sur l'assurance du bonheur. Les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des méchants mène à la ruine. En fait, les derniers versets, ils pointent vers une réalité future. Ils pointent vers quelque chose au-delà de notre quotidien, et au-delà de notre réveil le matin qu'il nous faut éteindre. Les derniers versets pointent vers une réalité future, celle du jugement, où un jour, Dieu séparera les justes des pécheurs. Pendant les vacances, on était en randonnée avec mes beaux-frères en Suisse. On faisait une randonnée, on était sur un chemin très agréable, pas très assez large, sur lequel nous pouvions papoter. On papotait, et d'un seul coup, il a fallu nous prendre un chemin raide sur la gauche ou droite, je sais plus. Et là, incapable de parler, on était tous asphyxiés. Quel était le bon chemin? Ou est-ce qu'on aurait dû rester en bas? Non, le bon chemin, peu importe s'il y en a un qu'il faut, qui est un peu plus dur, mais le bon chemin, c'est celui qui mène au bon sommet. Et ce qui compte pour savoir si le chemin est le bon, c'est pas est-ce qu'il est facile ou non, c'est est-ce qu'il mène à bonne destination ou non. Et de la même manière, dans ce psaume, au-delà de la situation présente des personnes, ce qui compte entre les justes et les méchants, ce qui compte par-dessus, c'est leur destination finale, leur destinée finale, au moment du jugement. L'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants, le chemin des méchants, y mène à la ruine. Et ce qui compte, c'est la destination. Dieu promet un jour qui jugera chaque être humain, chaque homme, chaque femme, chaque enfant. Qu'est-ce que cette perspective vous fait penser? On peut être terrorisé en fait face à cette perspective. Parce qu'on n'est ni 100% juste, ni 100% parfait, et qu'on n'arrive pas 100% à méditer la parole de Dieu jour et nuit. Face à cette perspective, on peut être terrorisé. Mais la bonne nouvelle de l'évangile, et c'est ce pourquoi nous avons pris la Sainte Cène tout à l'heure, c'est que Jésus-Christ a vécu cette vie parfaite et qu'il l'a offert pour nous, pour que nous, justement, imparfaits que nous sommes, nous puissions être justifiés. C'est ça le miracle de l'évangile. La bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, nous avons l'assurance du bonheur éternel. Donc qui est juste, qui est heureux, pardon? Heureux l'homme juste, mais surtout, heureux l'homme et la femme que Dieu justifie. La destinée de l'homme ne dépend pas de sa capacité à réussir à méditer jour et nuit la parole de Dieu, mais dans sa foi, dans notre foi, dans le Dieu sauveur qui est capable de justifier les pécheurs qui viennent à lui. Et c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous croyons, ce que nous professons dimanche après dimanche. Heureux l'homme juste, mais heureux l'homme que Dieu justifie en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, nous avons l'assurance du bonheur éternel, et un jour, nous n'aurons plus à méditer la parole de Dieu jour et nuit, nous n'aurons plus nous serons directement face à Dieu, face à face, pleinement, avec le Dieu qui nous a sauvés. Et voilà la plus grande assurance de bonheur qu'il soit. En conclusion, faisons confiance à Dieu que le véritable bonheur se trouve en lui et non dans la taille de notre piscine. Laissons-nous influencer, non par les moqueurs, mais par la parole de Dieu, afin que tôt ou tard, ça transforme nos vies. Faisons passer Dieu avant notre smartphone, et c'est un défi que je vous lance. Soyons comme ce bel arbre aux racines plongées au bon endroit. Et enfin, méditons la parole de Dieu de la même manière que nous sommes capable de penser à une facture tout au long d'une journée. Et en cela, nous porterons le fruit pour Dieu en toute saison, que ce soit au mois d'août ou en plein hiver. Et en cela, je pense que en cela se trouve le véritable bonheur dont nous avons besoin, car c'est pour cela que nous avons été faits et c'est pour cela que nous avons été créés. Et donc ainsi, dès aujourd'hui, on peut commencer à goûter de ce bonheur véritable qui nous attend un jour où nous serons face à face avec Dieu dans cette fameuse assemblée des justes. Assemblée des justes, alors, non que nous aurons été meilleurs que les autres, non que nous aurons été parfaitement justes, mais que Dieu, dans son amour, nous aura justifiés, rachetés et pardonnés. Et en cela, nous avons dès aujourd'hui l'assurance du bonheur éternel. Heureux l'homme juste, heureux la femme juste, mais surtout, heureux celui ou celle que Dieu justifie. Amen. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons, Seigneur, pour ta grâce, pour ta parole de vie, Seigneur, que tu mets à nos dispositions. Nous voulons toujours plus y plonger nos vies, y plonger nos cœurs, pour que voilà, cela nous influence, cela nous transforme petit à petit, et que ça nous fasse porter du fruit pour toi. Permets-nous de nous éloigner des moqueurs, des méchants, ou de toute influence, Seigneur, qui irait pas dans le bon sens. Aide-nous à prendre concrètement les bonnes décisions dans l'intimité de nos vies, pour nous éloigner de ce qui nous tire vers le bas, et qu'au contraire, nous puissions nous laisser transformer par toi et par toi seul. Seigneur, pardonne-nous quand nous en sommes incapables, quand nous sommes pas à la hauteur. Et merci parce que c'est en Jésus-Christ, Seigneur, que tu nous justifies, que tu nous pardonnes, que tu nous rachètes. Et nous nous réjouissons le jour où nous te verrons face à face, Seigneur, et que nous pourrons te contempler et être éternellement avec toi. Nous nous réjouissons de ce bonheur éternel et nous bénissons que tu nous en donnes déjà à vivre aujourd'hui. Amen.